France Culture. À voix nue, Caroline Brouet,
Ariane Nouchkine.
Premier épisode, le voyage des origines et l'origine du voyage. Bonjour Ariane Nouchkine.
Bonjour.
Alors on va dire que vous êtes à la tête de cette troupe unique au monde qui est le Théâtre du Soleil, assise à la Cartoucherie de Paris, dans le bois de Vincennes où nous sommes. Une troupe qui a fêté ses 60 ans d'existence en 2024 et qui œuvre au bien de l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'a reconnu la Fondation Inamori qui vous a décerné le prix Kyoto en 2019. De fait, le Théâtre du Soleil, c'est un lieu, c'est un moment qui rappelle à l'essentiel, comme l'écrit l'homme de théâtre Jacques Lassalle, c'est-à-dire la noblesse et la générosité d'un rêve sur le théâtre qui a le pouvoir de changer la vie. Ici, vous avez monté des pièces restées cultes, une trentaine à ce jour, si j'ai bien compté. Des Shakespeare aux Atrides, de 1789 à Ici sont les dragons, des éphémères au dernier caravansérail, de l'âge d'or à une chambre en Inde, de Tartuffe au naufragé du fol espoir, des grandes fresques populaires, des épopées du temps présent, des pièces pour aujourd'hui mais qui sont chargées d'histoire et qui sont toujours ouvertes sur le monde, qui transportent la salle ailleurs et laissent le public étonnamment ragaillardi au sortir du chapiteau. En d'autres termes, Ariane Nouchkine, vous avez fait et vous continuez de faire aimer le théâtre à plusieurs générations de spectateurs et spectatrices, ce qui n'est pas donné à tout le monde, surtout en ces temps de forte concurrence par les écrans. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de refaire ces 2h30 d'entretien, refaire parce que c'est la deuxième fois que vous faites une série à voix nue. Ça non plus, ça n'est pas donné à tout le monde. La première avait été produite par Marie-Christine Navarro en 1998, c'était donc il y a 27 ans. Merci d'avoir accepté de replonger dans votre enfance comme si c'était la première fois, puisque je sais que vous aimez moins parler du passé que du présent, et de compléter donc la première série par 27 ans supplémentaires de vie et de création. Quand on s'est vu pour préparer ces entrevues, vous n'étiez pas très excité à la perspective de raconter le passé. Ce présent, nous allons en parler tout du long, puisque le théâtre n'est qu'un art du et au présent, selon vous. Vous avez très envie de parler du monde tel qu'il ne va pas. On le fera surtout dans le cinquième épisode, si vous acceptiez de me suivre. Et je me suis dit qu'il y avait très longtemps que vous n'aviez pas parlé de Guignol. Or, Guignol, c'est l'origine de votre amour pour le théâtre, pour la scène, les marionnettes, les histoires qui font crier, qui font pleurer, qui font rire. Alors, je vous propose de commencer par Guignol.
Quand vous avez prononcé le mot de Guignol, tout de suite est venue une image qui est Codéran, la banlieue de Bordeaux, où ma famille et moi nous sommes pendant la guerre, et la place de l'église ou de la mairie, je ne sais plus, sur laquelle il y avait effectivement assez souvent un Guignol qui venait. Et il y avait deux choses. Il y avait le laitier avec un cheval. Donc quand il y avait du lait, j'allais chercher, toute petite que j'étais, mais c'était juste une rue, enfin même pas un chemin. Donc j'allais chercher du lait dans le bidon de métal et je donnais quelque chose à manger au cheval. Soit un trognon de pomme, soit un petit bout de pain. Et effectivement, il y avait Guignol. Et donc c'est vrai que cette place de l'église ou de la mairie était un lieu assez, enfin probablement pour la toute petite fille que j'étais, assez unique, à la fois d'indépendance, puisque j'avais le droit d'y aller toute seule, et de rêverie, et de compagnonnage avec ce cheval.
Le cheval est presque plus important que Guignol.
Il va avec. Le cheval et son chariot va avec. J'aimais ce cheval et je pense que je croyais à l'époque qu'il m'aimait aussi, ce cheval. Je pensais avoir établi une relation très importante pour lui et pour moi. Mais évidemment, Guignol était important parce que c'était, vous avez raison, c'est ma première expérience de théâtre et d'acteur, et pas rien, et pas n'importe quel acteur, puisqu'il s'agissait quand même effectivement d'une marionnette, c'est-à-dire d'une création continue entre deux entités, le marionnettiste que je ne voyais jamais, sauf quand il pliait bagages, et la marionnette, les marionnettes Guignol, Niafron, le gendarme, etc.
Il y a autre chose peut-être avec Guignol aussi, c'est que c'est un temps quand on est enfant et qu'on regarde un petit théâtre comme le théâtre de Guignol, où on est ailleurs, on est transporté ailleurs, alors même que le soubassement de votre vie, puisque vous êtes né en 1939, Ariane Nouchkine, le soubassement de la vie, c'est quand même la guerre, le sortir de la guerre, et donc... On n'est pas dans un monde extrêmement gai encore. On est dans un monde encore un peu dur.
Oui.
Alors peut-être que voilà, le théâtre, c'est aussi, ah, tout d'un coup, autre chose.
Oui, c'est très vrai pour mes parents, ce que vous dites. Pour moi, je pense que j'ai traversé cette période, heureusement, grâce à ma mère et à mon père, sans me rendre compte, sauf une ou deux visions, que j'ai gardé sans me rendre compte de la gravité du moment. Parce que je pense qu'ils faisaient tout pour que la cruauté de ce que eux vivaient ou les difficultés que eux vivaient, ça ne transparaisse pas trop dans la journée de moi enfant.
C'est fou quand on y pense parce que vous étiez réfugié près de à Codéran,
oui,
près de Bordeaux.
Oui, en fait, c'est ça, oui. Mon père était au front quand la guerre a vraiment éclaté, c'est-à-dire en 40. Et donc, il a fait comme tout le monde, comme tous les soldats français de l'époque, ils se sont repliés. Et ma mère est partie, comme beaucoup de citadins, avec moi et deux valises et sa voiture, et vers l'endroit qu'elle connaissait, qui était Bordeaux, où elle avait des amis, etc. Et donc, après, ils se sont retrouvés là-bas. Mais ça, c'est une, entre guillemets, une aventure que beaucoup de gens de mon âge qui étaient tout petits à l'époque ont vécu. Hein. C'était la France était sur les routes et la France vivait certainement une de ses périodes les plus sombres parce que inattendues. Au fond, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, l'inattendu de la chose. Hein. C'est-à-dire, l'armée française avait été tellement, non seulement héroïque, mais tellement puissante pendant la Première Guerre que malgré la saignée terrible d'une génération entière que cette Première Guerre mondiale signifiait, la France était quand même non seulement victorieuse, mais glorieuse. Et je me suis rendu compte en travaillant sur notre spectacle actuel...
Sont les dragons.
Oui, ici sont les dragons, première époque. Et donc, surtout la deuxième époque que nous allons commencer à travailler bientôt... que personne ne pouvait prévoir, personne, sauf ceux qui étaient très lucides et qui étaient très, très expérimentés, personne ne pouvait prévoir une telle déroute de l'armée française. Et on le sait par Churchill, qui malgré toute sa lucidité, sa perspicacité, au moment où l'armée française s'écroule, et que donc l'Angleterre se retrouve en première ligne, c'est un choc historique énorme, et un chagrin. C'est très beau d'ailleurs, hein, la façon dont Churchill exprime sa solidarité, sa compassion et sa terreur devant la défaite et la déroute française. Et donc, cette déroute, cette défaite, cette reculade de l'armée, le piège de Dunkerque, l'exode de Paris, entre autres, des gens qui fuient les Allemands et qui partent vers le sud et le sud-est, sud-ouest. On en a des images par les actualités de l'époque, etc. Mais l'inattendu, la surprise, la terreur, ça, on ne l'a pas. On l'a oublié ou on ne l'a pas su. Donc voilà, c'est tout. On a parlé de Guignol et puis on est arrivé à l'exode.
Ben oui, parce que vous êtes en train de travailler, Ariane Nouchkine vous le dit, sur le XXe siècle. Ici sont les dragons qui se jouent en ce moment au Théâtre du Soleil. C'est la première époque d'un spectacle qui va en compter trois, normalement, et qui remonte aux origines de l'impérialisme russe, puisqu'il part d'aujourd'hui avec la guerre en Ukraine.
C'est-à-dire, en fait, le départ du spectacle, ça a été l'invasion, le 24 février 2022, de l'Ukraine par la Russie. On veut raconter comment un homme comme Poutine est-il possible? D'où vient-il? Quel est son creuset? Bon, peu à peu, on s'est rendu compte que pour arriver à comprendre ça, il fallait repartir de 1917, qui n'est pas l'origine de l'impérialisme russe. Hein. L'origine de l'impérialisme russe,
il est bien plus ancien.
Bien avant.
Il aurait fallu
remonter presque à Ivan le Terrible.
Mais c'est intéressant aussi de constater qu'en travaillant sur 1917 et sur l'origine de tout ça, de ce qui nous conduit à l'invasion de l'Ukraine aujourd'hui, Ariane Nouchkin, vous remontez aussi aux sources de votre propre histoire, parce que vos grands-parents paternels étaient russes, juifs. Ils sont arrivés en France en 1925. Ils ont été déportés après avoir été dénoncés. Donc c'est d'une certaine façon aussi votre propre histoire, même s'il n'en est pas du tout question dans Ici sont les dragons, mais ça doit charrier pas mal de choses pour vous aussi.
Bien sûr, ça doit jouer, comme on dit, mais ce n'est pas conscient. C'est la recherche historique, elle a vraiment été historique, et elle a été le fait des 40 personnes du plateau qui ont lu plus qu'ils n'avaient jamais lu et cherché plus qu'ils n'avaient jamais cherché historiquement à quel moment prendre le fil de cette histoire. Donc, effectivement, il y a des moments où quand je vois arriver le pont de Petrograd ou dans telle scène, tel décor, il m'arrivait en répétition, mais surtout maintenant en représentation où je suis d'une certaine façon beaucoup moins active, puisque maintenant le spectacle, cette époque-là, elle appartient aux comédiens et moi je ne fais que un peu la mouche de coche en donnant des notes de temps en temps. Hein. Mais donc je regarde le spectacle plus paisiblement. Si c'est possible. Et c'est vrai que de temps en temps, je me dis « Ah, mon père a vu ça. » Voilà, il est passé sur ce pont, probablement. Mais ça n'a pas guidé les choses, au fond. C'est maintenant que je m'en rends compte.
Votre père, il vous parlait plus de cinéma. Il était producteur de cinéma. Il vous parlait plus de cinéma que de ses origines juives russes
De ses origines juives, il ne m'en a jamais parlé, sauf quand à un moment, je lui ai posé la question. Il me parlait de la Russie, mais très peu. En fait, c'était plutôt sa sœur, ma tante, qui me racontait des histoires là-dessus. L'erreur des enfants, elle est très commune et je l'ai commise. C'est-à-dire, j'aurais dû asseoir mon père et ma tante et leur dire, avec un magnétophone, et leur dire, maintenant, vous allez me raconter. Voilà, j'aurais dû le faire et je me suis tout le temps dit, tiens, il va falloir que je le fasse. Et puis, je ne l'ai pas fait. Et c'est un regret. Et le péché des parents, c'est de ne pas le faire non plus. C'est de ne pas dire à leurs enfants, que tu le veuilles ou non, assieds-toi et je vais te raconter d'où tu viens. Mais il y a des blessures, il y a des choses enfouies que les parents ne veulent pas ressusciter parce que c'est trop douloureux ou trop nostalgique. Et que les enfants, malheureusement, comme moi, n'ont pas la générosité et l'intelligence de susciter ces récits. Hein, on est trop impatient, on est trop égoïste, on pense à son propre monde. Et les bibliothèques que représentent nos parents, de quelque milieu qu'ils soient, nos parents sont des bibliothèques, des petites ou des grandes bibliothèques, selon leur érudition, selon leur degré de sophistication intellectuelle. Mais tout le monde, on devrait tous à un certain moment dire « Assieds-toi et raconte-moi, 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 raconte-moi. » Parce que je suis fait de ça. Et on ne le fait pas assez. Alors moi, je l'ai eu un petit peu quand même, heureusement, par ma tante, un petit peu par mon père, mais évidemment pas assez.
Par votre mère ?
Ma mère, c'était un tout autre milieu. Elle venait d'Angleterre, c'était autre chose. Oui.
Elle vous racontait des histoires, mais pas forcément les siennes.
Voilà. Elle racontait des histoires, mais pas forcément les siennes.
Est-ce que vous diriez, Ariane Nouchkine, que vous êtes une enfant de la balle entre un père producteur de cinéma et une mère qui était fille et nièce de comédien, je crois?
Oui. Mais ça aussi, je l'ai compris très tard. La lignée théâtrale de ma mère, je l'ai matérialisée très tard. En fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, mon grand-père était acteur, mon oncle était acteur, ma tante était actrice. J'ai mis du temps là aussi à suivre. Mais une enfant de la balle, je ne suis pas sûre, malheureusement, que je mérite ce titre. Parce qu'une enfant de la balle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est dans les théâtres ambulants qu'il y avait des enfants de la balle. C'est dans les cirques qu'il y a des enfants de la balle. Hein. C'est-à-dire des enfants qui, très vite, en bien comme en mal d'ailleurs, sont utilisés et apprennent, mais sont aussi parfois exploités ou brutalisés, ou voilà, qui ont un rapport à ces arts populaires plus rude que ceux que moi j'ai eus. Hein. Alors, oui, mon père m'a emmené avec lui pendant les vacances sur les tournages, et c'est une expérience qui a évidemment compté, de voir le tournage, le film, etc.
Comme Fanfan la Tulipe, comme en 51, avec Gérard
Philippe. Même, j'étais voir quand j'étais sur le plateau de films de Jean Cocteau, de L'Aigle à deux têtes, etc. Donc, j'ai des émerveillements comme ça, hein, qui comptent véritablement, mais Enfant de la balle, c'est... Je ne suis pas sûre que je mérite ce titre.
En tout cas, vous avez acquis très tôt le goût du cinéma, grâce à, non seulement à ces tournages
oui.
sur lesquels vous alliez avec votre père, mais aussi parce qu'il y avait un petit cinéma de quartier, le Studio Obligado.
Obligado.
Où vous passiez beaucoup de temps. Ouais. À 12 ans, vous aviez déjà une très grande culture cinéphile. Ouais. C'était des classiques que passait ce Studio Obligado.
Oui, c'était avenue de la Grande Armée. Il avait deux petites salles, ce monsieur. Et donc, au fond, très vite, j'arrivais à voir les deux films le jeudi. Parce que c'était le jeudi à l'époque, les après-midi de congé. Et à un moment donné, j'arrivais à emmener ma sœur cadette. Et je ne payais pas pour elle parce que je la mettais sur mes genoux. C'était un petit cinéma très, très de quartier, très familial, mais qui avait une programmation, en fait, extraordinaire. Il passait tous les grands réalisateurs américains, tous les John Ford, les Hawks, tout le monde. Tout ça, ça passait les jeudis après-midi. Et donc, voilà, donc j'ai une sorte de petite culture cinématographique avant d'être adepte de la Cinémathèque.
À un âge où on retient, souvent.
Voilà, absolument.
À un âge où on garde ça toute sa vie.
Absolument.
Et puis, il y a eu aussi, alors de l'autre côté, côté théâtral, il y a eu, quand vous étiez adolescente, vers 14-15 ans, à Menton, un spectacle qui vous a particulièrement plu, Arlequin, serviteur de deux maîtres, d'un certain Giorgio Strehler, qui a été fondamental pour vous dès ce moment-là,
oui.
par la suite.
Moi, je ne suis pas sûre que c'était 14. Je crois que c'était un petit peu plus tard. Ça devait être plutôt 15-16 ans. Mais effectivement, je m'en souviens. Alors là, ben voilà, c'est peut-être Guignol multiplié par 1000. Hein. Voilà, ça a eu le même choc. Et en même temps, je ne me suis pas dit... Peut-être pas d'ailleurs parce que c'était trop écrasant. Ce n'est pas là que je me suis dit je vais faire du théâtre. Mais c'est vrai que je suis sortie littéralement titubante de révélation de qu'est-ce que c'était que le théâtre. Voilà. Je pense que c'est peut-être là que le théâtre s'est affirmé comme égal du cinéma pour moi. Tout à coup, Moretti, le comédien qui jouait Arlequin.
Vous en souvenez?
Oui, c'était inouï, voilà. C'était inouï corporellement, physiquement, vocalement. Ce petit homme, cette petite boule d'énergie, il peignait avec son corps. Il c'était plus que du jeu, c'était de l'incarnation d'une créature qui n'était plus terrestre, enfin, qui volait, qui voilà. Donc, je pense que c'est pour moi l'équivalent d'un acteur que je vais voir au Japon.
Exactement ce que j'allais vous dire.
Voilà, mais... quelques années après, et qui me donnait une autre sorte de révélation. C'est-à-dire que lui me faisait découvrir pas seulement l'acteur, mais le théâtre dans son entièreté. C'est deux choses, Moretti et cet acteur qui, hélas, dans mon panthéon, reste anonyme parce que je n'ai pas été capable de trouver son nom, et qui était en plus certainement un acteur modeste, parce que l'endroit où je le vois, en 63, quelque chose comme ça, le théâtre où je le vois, c'est un petit théâtre misérable, qui est déjà un peu en perte de vitesse, si je puis dire, et où il n'y a plus dans la salle que des vieilles dames et des vieux messieurs un peu somnolents,
et une jeune femme d'une vingtaine d'années,
voilà. Et moi qui débarque sous la pluie et qui voit, et je me dis, ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça le théâtre.
Alors que vous ne compreniez rien, hein. Non. C'est-à-dire que ça passait par tout sauf la langue.
Ouais, oui. Mais ça passait aussi par le
langage
corporel, évidemment, hein, parce qu'il racontait, il faisait. Mais j'ai compris comment un acteur seul peut, et trois pauvres petits jeunes guerriers, comment ils peuvent à eux quatre me donner le champ de bataille, la peur, la gloire, l'arrivée, le courage, l'ennemi, les deux armées. Et avec juste un tambour et je te dis trois pauvres types qui rentrent et qui se font renvoyer d'un seul geste de l'épée dans des minuscules coulisses. J'ai plus découvert ce jour-là sur le théâtre que en lisant 10 volumes, qui sont aussi nécessaires. Je ne dis pas ça, mais il y avait tout, voilà, il y avait tout. Il y avait l'épique, il y avait la poésie, il y avait le rythme, il y avait la musique, il y avait le dessin, il y avait tout. Ce que déjà j'avais entrevu avec l'Arlequin serviteur de Demeter dans une toute autre veine, tout autre style, et en même temps relié par l'art du théâtre.
Le tableau ne serait pas complet sans un quatrième. Alors, ce n'est pas forcément un acteur, là. Hein. C'est un personnage, c'est surtout une pièce, et c'est un moment théâtral qui est Coriolan.
Ah oui, ça, c'est autre chose, alors, oui. Le Coriolan dont vous parlez, qui est celui auquel je participais comme accessoiriste. Et puis, je faisais les duels. C'est moi qui ai réglé les duels de Coriolan.
C'était pendant votre année à l'université d'Oxford.
Voilà, pendant mon année. Mais, en fait, je suis tout à fait consciente que ce n'était pas très bien, hein. On n'était pas en train de monter le Coriolan de l'histoire du théâtre. C'était pas génial. Et l'acteur qui jouait Coriolan n'était pas génial.
Alors qu'est-ce qui a été une révélation
à ce moment-là ? Ce qui était génial, c'était de fabriquer ça. C'était de voilà, ce qui était merveilleux, c'était de le faire. Voilà. Et en plus, j'avais pas encore été au Japon. Donc je me rendais même pas encore compte vraiment à quel point c'était pas très bien. C'est après que je crois que je peux mesurer que cette production de Coriolan n'était pas un chef-d'œuvre.
Vous êtes toute jeune hein, à ce moment-là, parce qu'en 1959, vous avez 20 ans.
Oui.
Et comme vous aviez beaucoup aimé faire, vous fondez à la Sorbonne l'Association théâtrale des étudiants de Paris. 2 ans plus tard, en 61, première pièce, le Gengis Khan.
Le Gengis Khan d'Henri.
Henri Beauchaud,
oui.
Aux Arènes de Lutèce, à Paris. Bon, c'est pas un immense succès, mais peu importe, vous vous mettez à faire.
Ah oui, non, c'est pas un immense succès.
C'était pas fait pour ça, de toute façon.
Voilà. Je pense que c'est là que se rencontrent quand même les fondateurs du Théâtre du Soleil. Ils sont presque tous là.
Les bases sont là, en fait.
Voilà, les bases sont là. Les bases sont là, et c'est là qu'on décide qu'on va faire un théâtre. Et c'est là que je décide que, puisqu'il y a encore des services militaires à finir, des études à finir pour certains, etc., que voilà, je vais faire mon voyage.
Le voyage de vos rêves, voilà. Le voyage en Asie.
Oui.
Qui, en fait, a duré 15 mois, ce voyage. Hein. Donc, 5 mois au Japon, la Thaïlande, le Cambodge, l'Inde, le Népal, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie. Et ça, c'est fondamental pour comprendre la suite.
Oui, c'est vrai qu'il a été important. C'est vrai que j'ai été très, très maligne de le faire à ce moment-là parce que je n'aurais jamais pu le... J'ai dit, il faut que je le fasse maintenant parce qu'après, j'aurai plus le temps, ce qui est vrai. Bon, c'est vrai que j'ai eu un peu d'argent parce que je venais de faire un scénario et donc j'ai été payée pour ce scénario. Voilà, donc c'était le moment. Il fallait faire ce voyage. Et c'était une époque aussi où les jeunes partaient. Pendant ces 15 mois, vous avez raison... Moi, j'ai rencontré sur les routes, dans les autobus, j'ai pris un bateau pour aller jusqu'au Japon. Il y avait encore des bateaux.
Le Cambodge.
Le Cambodge. Et je suis revenue par le Vietnam. Mais bon, j'étais au Japon, ça a mis un mois. Je suis passée par le canal de Suez. Enfin, ça a été un périple qui allait devenir impossible à faire très peu de temps après. Quelques années après, c'était fini. Il y avait plus les messageries maritimes. C'était des cargos mixtes. Hein. C'était des cargos avec des cabines de 4 ou 8 personnes selon le tarif. Hein. Et ils s'arrêtaient quand même au moins 24 heures ou parfois 48 heures parce qu'ils devaient décharger et charger. Donc il y avait des escales. Donc on descendait à ces escales. tout d'un coup, en vous disant ça, je me suis dit, mais je descendais à ces escales, mais j'avais pas de visa pour descendre à ces escales. Ben si, on descendait à ces escales. Et on ne vous demandait pas un visa pour rester à Bombay ou même, je suis à Port Saïd ou à Aden. Maintenant, il faudrait que j'aie un visa pour chaque chose, pour y passer un quart d'heure. Enfin, là, non. Du moment qu'on était à bord du bateau avant qu'il reparte, on n'avait pas de problème. Donc, j'ai fait un voyage en partant en 63 et en revenant en 64. Enfin, j'ai fait un voyage qui ne se fait plus. Et j'ai croisé de jeunes voyageurs et voyageuses, plus de voyageurs que de voyageuses, évidemment, mais quand même, qui étaient sur les routes, pour certains, depuis plusieurs années. Et maintenant, ce que je crains, c'est que des jeunes ne fassent plus ça. Ils ne font plus ce... Allez, on prend 6 mois, pas 15 mois, mais bon, on prend 6 mois sabbatique, et avec très peu d'argent, on part sur les routes, et on visite, on voit un continent... Parce qu'on peut plus traverser l'Afghanistan, parce qu'on peut plus traverser l'Iran, parce que les murs les herses même, je dirais, hein, se lèvent, les ponts-levis sont levés, les difficile quoi pour des jeunes, je crois, d'envisager le monde comme un terrain de découverte et pas seulement comme un champ de bataille. J'ai eu cette chance, voilà, je suis passée entre les gouttes.
Et il vous en reste presque tout, voire tout, par Anouchkine, de ce voyage initiatique. Et en termes de théâtre, peut-être que vous avez comme une vraie dette envers le Japon, envers l'Inde.
Ah ben c'est plus que ça, vous avez tout à fait raison.
Le Japon, vous y avez consacré l'île d'or, l'Inde, une chambre en Inde. Mais tout votre théâtre est imprégné de cette culture. Culture au sens large et culture théâtrale.
Oui, vous avez raison. Et vous avez employé le terme de dette, et c'est exactement ça. Moi, je ressens une dette pour tous les pays, tous les maîtres qui ont accepté de partager avec moi leur expérience, pour tous les théâtres, les petits théâtres sur les places de village que j'ai vus à Bali, en Inde. Les grands théâtres que j'ai vus au Japon, les guignols, tout ça, je ressens que je leur dois. C'est comme s'ils étaient des petits phares, des petites lumières, des petits sur le chemin de mon apprentissage qui est en cours, qui est encore en cours.
J'aime bien cette idée de petits phares, de petites lumières qui ont balisé le chemin. Et d'ailleurs, j'avais intitulé l'épisode 2 de ces voix nues, Ariane Anouchkine, 60 ans d'histoire au pluriel. Mais on va changer, on va l'appeler 60 ans de lumière. On parlera de la lumière du Théâtre du Soleil dans le deuxième épisode. Merci beaucoup et à demain.
À demain.
À suivre l'épisode 2, 60 ans de lumière. C'était à voix nues avec Ariane Anouchkine, réalisation Asia Weber, prise de son Yvan Charby, chargé de programme à voix nues Daphné Abgral. Une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.